Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Saint-Pierre Express 97.4 FM. Nous sommes en direct du Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps. Vous pouvez retrouver aussi l'émission en direct live sur radioexpress.free.fr et tous les podcasts de la journée. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-France Beaufils, maire à la commune, et je vous laisse la parole.
Bonjour Marie-France.
Bonjour Marie-Paul.
Comment allez-vous d'abord? Comment allez-vous? Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Pierre-des-Corps depuis 1983, première adjointe depuis 1977, que vous avez annoncé cette année que vous ne brigueriez pas un nouveau mandat. Donc c'est quand même un moment important dans votre vie et politique et personnelle. Et voilà, ma première question c'est comment allez-vous?
Écoutez, je vais bien. À titre personnel, et c'est une décision maintenant que j'ai prise depuis plus d'un an, mûrement réfléchie, donc je suis préparée, je me suis préparée à cette idée en effet de passer le relais, parce que je pense qu'on est à une période où l'action municipale nécessite une mobilisation de toutes ses forces. Et qu'à un moment de sa vie, il faut savoir aussi mesurer que les forces à venir ne vont pas être obligatoirement les mêmes que celles d'il y a 10 ou 20 ans, et que donc il faut aussi prendre la décision. Même si je suis encore très active, très impliquée dans tout ce qui se construit en ce moment, mais je pense qu'il faut décider aussi à un moment de faire en sorte que on n'aille pas trop loin et qu'on se trouve en fragilité pour pouvoir continuer les actions qui sont amenées. On a bien vu toute la période qui vient de se passer, par exemple pour gagner à ce qu'une étude du tram s'engage. Il a fallu se mobiliser, heureusement le collectif du tram l'a fait également à nos côtés, et c'est de la ténacité, c'est de la permanence d'intervention, etc. Donc je crois que c'est bien que maintenant des plus jeunes prennent aussi le relais dans ce domaine, et je pense que les choses se préparent dans de bonnes conditions.
Les élections municipales sont en mars 2020, c'est très bientôt. Qu'est-ce qui se passe, et notamment à gauche, dans la préparation de ces élections municipales?
Alors, il y a eu de multiples rencontres avec les formations de la gauche sociale et écologique, des travaux qui sont des travaux sur le contenu de ce que pourrait être un projet porté ensemble, et je pense que c'est intéressant parce que pour vraiment construire quelque chose de solide et pouvoir porter en commun un projet pour la ville, pour son avenir, il faut être d'accord ensemble pour le mener. Et ce que je ressens, c'est que cette volonté de faire en sorte que des services publics soient maintenus dans la ville est une exigence forte des habitants, et que il semble qu'un certain nombre de formations soient en effet d'accord dans ce sens-là. Et je crois aussi que toutes les questions qui sont en débat aujourd'hui autour de l'écologie avec le réchauffement climatique et la nécessité de traiter autrement la réponse que l'on doit apporter est quelque chose qui se partage et assez largement, de la même façon que faire évoluer les formes de démocratie de participation sont aussi bien discutées actuellement. Donc je pense qu'il y a des perspectives d'avoir une union des formations qui se réclament de cette gauche sociale et écologique qui devrait pouvoir naître. Et j'espère que dès janvier, on pourra annoncer en effet des choses très positives pour cette relève. En tout cas, j'y prendrai toute ma place pour lui permettre de réussir, bien évidemment.
À l'heure où vous vous apprêtez, vous, à prendre votre retraite, en tout cas d'élu, et à l'heure aussi où des centaines de milliers de femmes et d'hommes manifestent et contestent la réforme des retraites présentée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, j'ai envie de vous demander si vous êtes d'accord avec la phrase suivante. Ah, mais c'est normal que l'on repousse l'âge de la retraite parce qu'on vit plus longtemps. Et comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Ça semble d'une logique imparable. Qu'en pensez-vous ?
C'est souvent de la logique imparable qu'on nous présente pour tout un tas de réformes. Sauf que derrière la logique imparable, on a oublié de nous dire la vérité. C'est vrai que l'allongement de la vie est quelque chose qui est ressenti. On vient de marquer plusieurs centenaires à Saint-Pierre-des-Corps. Et on a les exceptions de deux personnes de 106 ans qui sont décédées cette année et qui montrent que l'allongement de la vie, ça peut exister. Mais on constate aussi qu'il y a un ralentissement de cet allongement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous alerter, parce que ça veut dire que aujourd'hui, le fait que les femmes et les hommes travaille de façon peut-être plus dure qu'on ne le pense, et que la notion de pénibilité, elle a évolué, mais on ne l'apprend pas obligatoirement. Moi, je lisais un cheminot qui racontait le stress de ce que c'est que de conduire un TGV qui va à plus de 200 à l'heure et avec un nombre de passagers derrière lui qui l'oblige à être très attentif parce qu'il n'a plus de collègues avec lui dans la cabine, et que s'il y a un incident, c'est lui qui devra traiter l'ensemble des choses. Mais tout ça, c'est quelque chose qui pèse sur la qualité de vie. Et après, l'autre aspect, c'est dans quel état de santé on est. Même si il y a allongement de vie. Donc c'est la question de arrêter, prendre sa retraite dans de bonnes conditions et en étant dans un état de santé qui va permettre de profiter de sa retraite, qui est la question qu'on devrait se poser. Et très honnêtement, vouloir allonger le temps d'activité professionnelle n'est pas celui qui devrait être pris en compte en premier. Combien y a-t-il de gens qui, à 55 ans, ne sont déjà plus dans l'activité parce que aucun employeur ne veut prendre l'engagement d'embaucher quelqu'un qui a déjà été passablement fatigué et que par conséquent il préfère quelqu'un de plus jeune. Donc c'est je trouve une erreur de vouloir allonger cette durée de travail.
Votre propos conforte celui du démographe Hervé Lebras qui disait récemment que le déficit prévu s'explique par le retrait de l'État et non pour des raisons économiques ou démographiques.
En effet, et ça c'est quelque chose qui m'a profondément, je vais dire, agacé. On nous dit il va y avoir un déficit catastrophique. Mais ce déficit catastrophique a été sorti d'une étude du corps dont le gouvernement avait demandé qu'il modifie les éléments de base pour analyser la situation.
Comité d'orientation des retraites.
Oui, en effet. Le comité d'orientation des retraites a donc dû faire une étude dans laquelle le gouvernement lui a demandé d'intégrer la suppression de 80 000 postes de fonctionnaires, donc 80 000 cotisations salariales et cotisations patronales en moins dans le budget de la sécurité sociale, et en ajoutant avec un gel du point d'indice des fonctionnaires jusqu'à 2022, c'est-à-dire encore des recettes en moins de la part de l'État en termes de cotisation. Si bien que quand on regarde la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ce qui manque à la caisse aux caisses de retraite, ce sont des recettes. C'est pas parce que les dépenses vont être plus élevées, ce n'est pas le cas. C'est bien les recettes qui sont mises en cause, comme elles sont mises en cause quand le gouvernement décide des allègements de cotisations sociales pour tous les salariés d'1,5 SMIC à la place du crédit d'impôt compétitivité emploi. Ce sont des sommes énormes qui sont perdues pour les caisses de retraite comme pour la sécurité sociale. Donc faut qu'on cesse de nous faire prendre les vessies pour les lanternes. C'est bien un déficit qui est organisé par la baisse des recettes et non pas parce qu'on a plus de retraités auxquels il faudrait apporter une contribution retraite qu'ils ont bien méritée.
Et auxquels il faudrait demander de travailler plus longtemps.
Et puis, moi j'ajouterais que dans les recettes, la richesse qui est produite dans ce pays, elle se partage ensuite pour pouvoir dans son utilisation, je dirais, cette richesse, en investissement dans l'outil économique, en rémunération salariale, mais la rémunération actionnariale, elle n'est jamais concernée. C'est-à-dire que les actionnaires, bon, qui ont apporté leur contribution financière peut-être, mais pourquoi ne cotiseraient-ils pas, en termes de caisse de vieillesse, pour permettre à ceux qui ont produit les richesses de pouvoir aussi bénéficier d'une retraite dans de bonnes conditions.
L'âge dit pivot, qui revient de fait à repousser l'âge légal et qui est particulièrement inégalitaire. Il y aura celles et ceux qui pourront peut-être se le permettre, si tant est que ce soit une chose intéressante pour nous tous collectivement. Et puis, il y a celles et ceux qui, du fait de leur revenu de retraite très, très, très bas, ne pourront pas se le permettre et devront donc travailler plus longtemps. C'est double peine et c'est particulièrement inégalitaire.
Alors, je ne comprends pas cette volonté obligatoirement du gouvernement de mettre cet âge pivot en plus de cet âge de 62 ans qui est l'âge où on a le droit de prendre sa retraite. Si on a le droit de prendre sa retraite à 62 ans, on doit pouvoir la prendre à taux plein dès 62 ans. Si on la prend à 62 ans aujourd'hui, on a une décote de 5% par an. Jusqu'à ses 64 ans. Enfin, je veux dire, 5%, ça va être énorme pour certains salariés qui vont se voir avec des retraites impossibles à vivre dans ce domaine-là. Donc, je pense que cet âge pivot, il faut vraiment, en effet, le faire sauter. Il n'a absolument aucune légitimité à exister dans le système de retraite.
Les systèmes non publics, je pense à ce qui se passe actuellement au Chili avec les fonds de pension, la population de ce pays se révolte, et parmi elles, beaucoup de retraités, parce que le système de retraite repose sur un principe très libéral qui est celui de faire de l'épargne personnelle, finalement, à travers des fonds de pension, et ces fonds de pension auxquels ne cotisent pas les employeurs, que n'abondent pas les employeurs, sont des fonds de spéculation qui garantissent des dividendes à des actionnaires, mais des retraites très très faibles aux épargnants. On compare rarement, on s'apesantit beaucoup sur le système public inventé après-guerre chez nous, mais on compare rarement avec ces mécanismes-là très libéraux qui reposent sur l'épargne individuelle. Pourquoi, d'après vous, on n'a pas ce type de regard-là aussi ?
Alors, je pense que le gouvernement n'a pas voulu qu'on ait ce regard dans la mesure où, si demain les retraites sont plus faibles, les gens vont essayer de se garantir par d'autres moyens. Et en fait, il nous prépare avec cette réforme de retraite l'utilisation de systèmes assurantiels privés qui sont pas très loin des systèmes de fonds de pension, et avec toutes les fragilités que l'on connaît. On a vu aux États-Unis il y a quelques années comment des fonds de pension en chutant ont mis des milliers de retraités en situation de continuer à travailler parce qu'au moment de leur retraite ils n'ont plus de quoi vivre, et ça c'est véritablement catastrophique. Mais on a aussi l'exemple de la Suède qui est très peu mis en avant, alors qu'en Suède, on a vu avec le système à points une perte de niveau de retraite des retraités qui fait qu'aujourd'hui, les retraités les plus modestes sont tous en train de travailler en plus avec des petits boulots pour pouvoir retrouver un peu une qualité de vie, sinon ils seraient dans l'impossibilité de le faire. Et puis je dirais que les fonds de pension, on a vu aussi en France ce que ça fait. Les fonds de pension, ils veulent avoir des rémunérations très élevées. Quand ils viennent s'investir dans une activité économique, ils veulent une rémunération à très haut niveau. Et cette rémunération, bien souvent, elle se fait au détriment de l'activité économique elle-même, et elle épuise la richesse produite par l'entreprise, puisque bien souvent, ces fonds de pension vont imposer, en effet, à l'entreprise de réduire le salaire des salariés. Donc, on a des outils à notre disposition, mais le gouvernement n'a pas envie de faire partager cette connaissance.
Je vous propose de faire une pause musicale après ce premier quart d'heure passé ensemble.
Vous êtes branchés sur le 97.4, Radio Saint-Pierre Express.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux.
On se retrouve pour évoquer les rencontres. Alors, je vais donner cette information-là, les rencontres habitants élus qui ont lieu tous les ans. Se dérouleront en 2020, mardi 14 janvier à 19h à la salle de la médaille. Jeudi 16 janvier à 19h30 à la maison de l'Aubrière. Mercredi 22 janvier à 19h à la salle Jules Curie. Et jeudi 23 janvier à 20h à la salle de la médaille. Cette dernière étant plus particulièrement à destination du monde associatif. Et donc, durant ces rencontres, vous échangez avec les habitants, l'ensemble des élus échangent avec les habitants. Et on y parle souvent aussi. Sous, parce que c'est le nerf de la guerre, et on a fait un petit calcul et on a calculé que depuis 2014, la commune de Saint-Pierre-des-Corps avait perdu 6 millions d'euros depuis 2014 de recettes du fait des baisses de dotations de l'État. Est-ce que, alors c'est une réalité, est-ce que ça permet de poursuivre et de mettre en œuvre des projets, et quels seront ces projets pour les années qui viennent?
Alors, déjà pour dire que la volonté de, alors, du gouvernement précédent, en 2014, lorsqu'il a décidé, juste après notre élection, de réduire les dotations de l'État aux collectivités territoriales, c'était avec la volonté de faire participer les collectivités locales à la réduction de la dépense publique. Le nouveau gouvernement, depuis 2 ans, dit les choses un peu différemment, mais pour nous ça se traduit par une réalité également de réduction des moyens, en disant il faut que les collectivités locales consacrent plus de leurs ressources à faire de l'investissement pour moins recourir à l'emprunt, de façon à ce que l'État se retrouve avec une dette moins lourde. C'est-à-dire qu'à chaque fois on demande aux collectivités territoriales de réduire leur capacité d'intervention dans la vie publique locale, c'est-à-dire à proximité des habitants. Or, la vie locale, elle est faite de multiples services, de services publics à disposition de ses habitants, qui sont essentiels pour la grande majorité d'entre eux. Or, passer d'une dotation globale de fonctionnement de 2 400 000 euros en 2014 à simplement 880 000 euros en 2019, c'est énorme. C'est énorme. Ça nous a donc imposé de resserrer les moyens de nos services, mais ça nous a aussi retardé un certain nombre d'équipements. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait un certain nombre de choses, mais il y a des équipements que l'on avait envisagés parce qu'ils sont arrivés à un vieillissement qui nécessite une forte intervention, sans qu'on puisse les démarrer pendant ce mandat qui vient de s'écouler.
La piscine, par exemple?
En effet, la piscine fait partie de cet exemple, et c'est d'autant plus important que la piscine, elle a été construite et inaugurée donc en 1971, et qu'elle fait partie des programmes 1000 piscines, comme celle de Saint-Cyr, de Chambray, les Tourettes, celle de Saint-Avertin également. La métropole a décidé de nous accompagner dans les réhabilitations, c'est-à-dire qu'elle participera à 50% du coût des travaux, comme ça vient d'être fait par exemple à la Saint-Avertin l'année dernière. Mais c'est un projet qui est lourd. Alors on a décidé de le lancer, puisque la métropole a aussi programmé dans ses financements sa participation pour les années à venir. Mais la première étape telle qu'on l'a fait, c'est une rencontre avec en particulier le club, avec les enseignants de sport, et on va faire ensuite des temps de rencontre avec les usagers pour élaborer déjà le programme. C'est-à-dire, on ne va pas rester simplement avec un petit bassin dans le cadre de la réhabilitation, il faut ouvrir à des capacités supplémentaires pour pouvoir répondre aux besoins de la population dans de bonnes conditions.
Donc là, clairement, c'est en route. C'est
en route. Après, il faudra arrêter le scénario qui convient. L'idée étant de faire en sorte que le projet futur, en termes de coût de fonctionnement, ne coûte pas plus cher que le fonctionnement d'aujourd'hui. On a un peu de recul parce que la métropole a réalisé un certain nombre de constructions ces dernières années qui nous permettent d'apprécier ce que sont les coûts et dans quelles conditions on peut les faire. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. On devrait en parler dans Clarté en janvier. Donc je pense que les gens vont y voir un petit peu plus clair dans ce domaine. Mais c'est un projet important pour la ville.
En voirie, la rue Marcel Cachin.
Alors la rue Marcel Cachin, on est dans une situation qui peut paraître longue à traiter. Alors ça aussi, l'investissement, il se fera sur plusieurs années. Mais en plus, on dépend aussi de l'enfouissement de tous les réseaux. Et l'enfouissement des réseaux avec le syndicat d'énergie d'Indre-et-Loire a pris du retard. Et en janvier 2020, va démarrer la tranche 3 qui aurait dû être faite cette année. Normalement, en continuité de cette tranche 3, devrait y avoir la tranche 4 en 2020 également. Mais on n'est pas en mesure de dire à quelle date encore. Et puis il y aura encore la nécessité d'une tranche 5 pour terminer complètement. J'ai discuté l'autre jour avec des habitants, avec l'association des riverains de Primagaz, qui me disaient qu'ils ont été tous contactés pour essayer dans cette tranche 3 de faire les choses dans de bonnes conditions. Donc, et c'est après qu'on pourra véritablement mettre en œuvre
les travaux de voirie. Les travaux de 2021, voilà. Les travaux de voirie.
Avant.
Oui, il y aura aussi la reprise des réseaux souterrains à faire.
Oui.
Et puis 2021-2022, on peut envisager vraiment le.
C'est là où pour des habitants ça paraît lourd et ça paraît long,
c'est long,
mais c'est une préparation nécessaire, parce que si on ne fait pas les réseaux souterrains, on va revenir percer la voie nouvelle que l'on aura faite. C'est pas une bonne solution.
Vous êtes régulièrement interpellé aussi sur la nécessité qu'il y a à revoir les isolations et à de lourds travaux dans les écoles. Alors on a un exemple, vous avez réalisé un équipement qui est farandole, un multi-accueil pour accueillir les tout-petits. Quel a été l'investissement nécessaire pour ce seul bâtiment-là, qui est de taille relativement modeste, mais sur lequel on a vraiment fait les choses jusqu'au bout, sur le plan climatique et isolation. Ça a été quoi l'ordre d'investissement pour ce bâtiment-là, tout seul?
Un bâtiment comme Farandole, donc, qui est à peu près l'équivalent de deux, peut-être maximum trois classes, même pas, 1 million d'euros pour l'ensemble du chantier, qui a permis une très forte isolation thermique, mais aussi une qualité d'isolation phonique importante. Et surtout, ce travail sur le puits climatique qui permet d'avoir un rafraîchissement d'air en été, la chaleur nécessaire en période d'hiver, et qui fait que les tout-petits cet été ont supporté une température extérieure importante, mais en ayant une qualité de vie à l'intérieur très appréciable. C'est ce qu'il nous faudrait atteindre dans les groupes scolaires, parce que si autrefois c'était juillet et août, c'est-à-dire pendant les vacances qu'on avait les fortes chaleurs, cette année on a commencé en mai. Et je ne pense pas qu'on puisse espérer que les années qui vont venir là, en tout cas celles qui vont suivre prochainement, vont permettre d'aboutir à des changements climatiques allant dans l'autre sens. Il faudra du temps pour y parvenir. Donc il faut vraiment que maintenant les travaux d'isolation puissent prendre en compte ces éléments-là. Alors on a donc ce travail à mener sur les écoles. On engage pour l'école Joliot-Curie un travail de fond qui va être une étude de faisabilité qui se produira probablement plus, qui conclura probablement plus à une suppression de ce groupe scolaire qui est à structure très ancienne, structure métallique qu'on ne peut pas retraiter correctement, et ça sera une reconstruction complète. Mais par exemple l'école Pierre-Séma, c'est d'autres sujets qu'on va être amené à traiter, parce que cette école elle a été conçue dans les années 50, et il faut peut-être aussi revenir à des aspects d'origine où la ventilation était beaucoup mieux traitée, et où des réaménagements qui se sont faits dans le temps sont venus contredire cette ventilation qui existait dans les lieux. Mais comme c'est un bâtiment qui a une richesse architecturale, ça va être encore plus complexe à traiter que sur d'autres écoles. En tout cas, je crois que cet investissement, il faut le faire.
Colossal.
Les services sont en train de travailler à une approche financière de ce que cela pourrait être pour pouvoir mieux déterminer les sommes qu'il faudrait y consacrer chaque année. Et il faudra aussi obtenir de l'État qu'il y consacre aussi les moyens d'accompagnement des collectivités. Alors on nous dit aujourd'hui que la DSIL, dotation de solidarité à l'investissement local, peut accompagner, mais c'est très modeste.
Par
département, par rapport aux besoins. Moi, j'avais sollicité le ministre du budget en lui disant que ça serait bien que dans le budget 2020, il y ait une ligne budgétaire d'accompagnement des collectivités à cette remise à niveau de l'ensemble des bâtiments scolaires, puisque c'est toutes les communes qui sont concernées. Donc,
vous avez une réponse ?
Pour le moment, le ministre a renvoyé sur son collègue, puis son collègue a renvoyé sur Jacqueline Gourault, qui est chargée des collectivités locales. Sauf que, je m'excuse, mais le budget, il est bien tenu par le ministère du budget. Et Jacqueline Gourault n'aura pas de poids sur le ministre du budget pour obtenir les ressources financières aux collectivités locales. Donc c'est une façon de repousser la réponse et ça montre que l'État parle peut-être d'environnement, mais quand il s'agit de prendre les dispositions nécessaires pour y faire face, il n'y a rien derrière.
Vous évoquiez le groupe scolaire Jules Curie qui va donc nécessiter peut-être d'être rasé et reconstruit complètement. Est-ce que les usagers, les enseignants, les parents vont être associés à la définition du programme ?
En effet, alors donc c'est ce que l'on veut faire avec ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc il faut d'abord faire une consultation pour qu'un cabinet vienne nous aider à travailler. Mais en effet, les habitants seront associés. Les enseignants, bien évidemment, également. Et quand je dis les habitants associés, c'est les parents d'élèves, mais aussi les habitants qui sont dans l'environnement. Quand on fait un groupe scolaire sur un espace comme celui-ci, il est bien aussi que les habitants soient associés sur la façon dont on va traiter le bâtiment par rapport à son environnement. Et on est dans un site qui est fortement concerné par la plaine de sport de la Morinerie, c'est-à-dire que c'est des espaces de plein air et qui vont être intéressants aussi pour eux. On est un petit peu dans un environnement plus paysager aujourd'hui que bien d'autres. Donc tout ça, il va falloir qu'on l'intègre, d'autant qu'on est dans des périmètres où le risque d'inondation amène à ce qu'une bonne partie des terrains ne sont pas constructibles dans cet environnement.
Je vous posais la question de l'association des usagers, enseignants et parents à la définition du projet, parce que en pensant à ce terme démocratie participative qui est beaucoup employé, alors on parle aussi aujourd'hui, c'est un mot plus contesté, mais il est utilisé, donc c'est le mot de gouvernance qui vient effectivement du monde de l'entreprise, mais voilà, il est utilisé. En tout cas, ces sujets-là font l'objet de beaucoup d'interrogations, de discussion, on cherche des outils, comment faire pour qu'il y ait davantage d'habitants qui soient partie prenante, qui se réinvestissent dans la politique, c'est-à-dire dans la vie de la cité, la vie ensemble. Vous avez des idées d'outils, vous, pour faire que ce soit plus davantage ensemble, que des décisions politiques, au sens vivre ensemble la cité, soient prises.
Alors, On a fait un certain nombre d'expériences diverses et variées. Je pense particulièrement au plan local d'urbanisme où en effet on a essayé d'associer des habitants. Mais en fait, le nombre d'habitants qu'on a pu associer ne fait jamais l'ampleur de la totalité de la population, même si ça a été important, puisque on a eu un nombre d'habitants qui sont venus participer à la fois aux ateliers, mais à l'échange plus large dans les conférences, etc. Je crois que c'est environ 1200 habitants qui ont comme ça tourné dans la réflexion du PLU, donc pour la ville c'est important. On a aussi un travail intéressant avec les associations, des structures qui existent dans la ville, avec le collectif cycliste par exemple. On a été en effet amené à essayer de voir ensemble comment on pouvait travailler sur ce que sont les utilisateurs de vélo, mais de quoi ils ont besoin. Et on leur a mis à disposition donc un local pour intervenir. On a aussi apporté notre contribution aux planteurs d'idées dans le jardin Gambetta pour aussi aider à faire partager ensemble une façon d'aménager un jardin dont tout le monde cherchait un petit peu comment il pouvait prendre sa place dans son quartier. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant. Ce que je ressens, c'est qu'on peut avoir aussi des habitants qui, à un moment, ont des idées et peuvent aussi construire, élaborer des propositions, et avec qui on peut partager, en effet, ces éléments-là. Alors, après, peut-être que l'idée des budgets participatifs peuvent aider à des choses. C'est sur des sommes relativement plus modestes, parce que sinon on aurait quand même du mal à tenir le budget si on fait des sommes trop importantes. Mais Le souci qu'on doit avoir quand on fait cette démocratie participative, c'est de faire en sorte qu'on voit comment, avec les élus qui sont dans leur quartier, il peut y avoir du contact plus direct avec les habitants pour qu'ensuite ils puissent venir dans ces initiatives qui vont permettre de les faire participer à ce qui peut être la construction de l'avenir de leur quartier et de leur ville. Quand on fait le point, par exemple, sur le travail dans le quartier de la Rabatterie, on a réussi à échanger avec les gens quand on est allé sur le terrain, au pied des tours, devant le centre commercial, dans des lieux où ils pouvaient nous rencontrer en direct. Mais dès qu'on passe dans une salle de réunion, il y a une part de la population qui ne passe pas la porte. Donc il faut qu'on trouve des formes. Je pense que les futurs élus vont aussi travailler à cette réflexion.
Pour trouver des outils.
Pour faire en sorte que les habitants participent. Et on sait que les réseaux sociaux sont des outils maintenant assez utilisés, mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça pour toute la population. Il faut penser que autant la nouvelle génération, elle est très à l'aise avec tous ces outils, les générations précédentes les utilisent beaucoup moins et même certaines ne les utilisent pas du tout. Donc c'est cette diversité de la population, je pense, auquel il faut qu'on soit attentif.
On va refaire une petite pause musicale.
Radio Saint-Pierre Express 97.4.
compris les partenariats que la commune a tissé avec des associations. Le tout dernier en date, c'est avec la Rabouilleuse, qui est une association qui s'occupe de batellerie en Loire, et au hangar qu'ils appellent l'atelier poisson, dans le vieux Saint-Pierre. Donc là, le partenariat, c'est zéro loyer, mais de l'entretien du lieu, de la conservation, de la mémoire de cette activité de restauration ou de construction de bateaux. Et il y a, sur un sujet comme ça, quelque chose qui peut paraître un peu surprenant, sur les 9 membres du conseil d'administration de la Rabouilleuse, il y a 5 femmes, et sur les 5 coprésidentes, il y a 4 femmes sur 5 coprésidents. C'est un petit peu curieux, et on assiste aujourd'hui beaucoup à un renouveau des voix et de la parole des femmes dans l'espace public de façon très très large. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous avez est-ce que vous pourriez dire, vous qui êtes maire de cette ville depuis si longtemps et qui êtes donc une femme en politique?
Ouais, moi je trouve ça passionnant parce que en effet, aujourd'hui, la place de la femme dans la société est quand même encore à conquérir. On a parlé des retraites tout à l'heure. Les femmes sont quand même encore fortement défavorisées au moment de la retraite. Et la réforme va encore plus les défavoriser. Donc, je trouve que c'est important de voir des femmes qui s'impliquent encore plus. Et quand elle s'implique dans la vie associative, comme là pour la Rabouilleuse, qui est d'ailleurs un petit clin d'œil de la ville à la Loire, qui est intéressant, parce que c'est quand même quelque chose qu'on cherche à faire vivre depuis des années, on a du mal à l'accrocher, et je trouve que c'est bien que ça puisse se faire. Et j'ai fait un petit clin d'œil, par exemple, aux femmes dans ma carte de vœux cette année, en faisant une citation sur les femmes qui lisent sont dangereuses. Pourquoi ? Parce que on est très attaché sur la ville à la lecture. Depuis plus de 50 ans, on a fait en sorte que le livre entre plus dans les écoles, que les écrivains, les illustrateurs soient en relation avec les enfants et leurs familles, parce qu'on pense véritablement que la lecture est ce qui va permettre à ceux qui sont les plus modestes et les plus défavorisés à pouvoir petit à petit posséder les clés qui les rendront libres de leur choix. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément important. Et on a commencé l'an dernier à prendre une nouvelle initiative, le Festival de littérature jeunesse à Tulusa, qui va se poursuivre normalement cette année fin juin, en gardant la même date pour commencer à ancrer ce festival dans l'histoire de la ville. Et puis si on regarde la vie associative sur Saint-Pierre-des-Corps, eh bien, il y a de multiples associations que des femmes ont décidé de créer. Et on a des femmes africaines qui dernièrement viennent aussi de créer une nouvelle association. Et puis on a aussi des mamans d'élèves qui s'associent à l'action menée avec Anne-Laure Roussel et les enseignantes des écoles maternelles autour de la danse, qui a donné lieu au festival Les Pieds qui Rient l'an dernier, qui va se poursuivre. Et cette action et cette participation forte de toutes ces femmes à la vie locale, plus toutes les activités qui se mènent dans la ville et qui sont consacrées, nous ont amené à proposer que dans la restructuration, par exemple, du centre commercial de la Rabatterie, eh bien, on ait un équipement consacré à la danse, et qui permettra donc de pouvoir fonctionner dans des conditions correctes à l'ensemble de ces pratiquants, je vais dire, d'une activité culturelle qui est amateur, bien sûr, mais de même façon qu'on a aussi du théâtre amateur dans la ville, que l'on a des musiciens amateurs avec l'harmonie et le big band, et puis on pourrait prendre de multiples autres exemples.
Puisque vous parlez du centre commercial de la Rabatterie, je voudrais vous demander quels sont, selon vous, les secteurs de la ville qui pourraient évoluer de façon marquante sur le plan urbanisme dans les années qui viennent.
Alors bien sûr, le site du centre commercial évoluera, il y a eu la présentation des grandes lignes de ce que pourraient être les modifications au dernier conseil municipal pour essayer d'obtenir l'accompagnement de l'État à l'ensemble de ces projets ainsi que du conseil régional et de la métropole. On devrait connaître les accords nationaux, je pense, début d'année. Ce qui nous permettra ensuite de poursuivre avec les habitants et les commerçants. Et puis on a ici en centre-ville un équipement qui est le centre commercial du centre-ville qui va être lui aussi à terme transformé complètement.
Placement Historez, pardon, je vous coupe.
Oui, sur la mairie, placement Historez. Bien sûr, sur cet ensemble, rien n'est commencé pour le moment, puisqu'on avait envisagé de transférer cette activité du centre commercial sur la place de la mairie, sur toute la partie où il y a le centre de secours aujourd'hui, les pompiers, donc en venant jusqu'au droit de la rue Ethel et Julius Rosenberg. Compte tenu que le schéma de couverture des risques du SDIS n'est toujours pas mis en œuvre, nous sommes donc complètement bloqués par rapport à cette perspective. Donc il faut reconstruire une proposition pour pouvoir reconcevoir les activités commerciales du centre-ville. Donc ça, c'est un projet à venir et qui ne sera pas porté par moi en tant que maire, mais qui va être un des projets qui devra être élaboré avec la population.
Si j'ai bien compris, le SDIS, donc c'est la caserne des pompiers, elle devait partir et on ne sait toujours pas si elle va partir ou pas, où elle va aller. Donc le projet initialement prévu de transférer le supermarché sur ce site-là, on est dans l'attente de la décision du service départemental d'incendie et de secours, on ne la connaît pas, donc il faut inventer autre chose.
Tout à fait.
C'est ça.
Alors, inventer autre chose avec la volonté de garder la dynamique de l'activité commerciale, c'est-à-dire garder l'activité alimentaire, bien évidemment parce qu'elle est très présente avec le Auchan qui est là, mais aussi faire en sorte que la dynamique liée à une boulangerie, y compris très 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 forte dans sa présence dans la ville, mais aussi les autres activités qui sont celles d'Infini Beauté ou celles de l'opticien ou celles de la restauration qui vient de s'ouvrir à la place de la charcuterie, tout ça, ce sont des éléments qui font la force du centre-ville. Il faut les conserver, même si on peut les développer. La librairie et presse, c'est aussi un atout dans ce quartier du centre-ville, et donc notre objectif, c'est de les renforcer sur la rue Ethel Julius Rosenberg. Et puis peut-être que dans la transformation, il va falloir prendre en compte l'arrivée du tram, puisque on est dans le débat aujourd'hui du passage du tram, et il se pourrait bien que le passage du tram vienne aussi bousculer un petit peu ce que les uns et les autres pouvaient avoir en tête sur le centre-ville. Donc il va falloir qu'on intègre aussi cet élément-là dans la réflexion. Et donc il faut que tout ça se travaille véritablement pour pouvoir déboucher sur des propositions concrètement. Et ça doit se faire aussi avec tous les intéressés.
Vous avez participé il y a une quinzaine de jours à un comité de suivi de ligne, l'endroit où on réfléchit entre les élus de la métropole sur ces questions de lignes au pluriel, de tramway. Pour l'instant, la 2 semblait actée, on parle de la 3 ou de la 2 bis, on parle aussi de segments, un segment qui pourrait être Gare de Tours, Saint-Pierre, Gare de Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il est sorti de cette toute dernière réunion? Est-ce que vous avez quelques informations sur ce sujet?
Alors, sur la partie aujourd'hui dont on discute pour l'est de la métropole, c'est donc la desserte de Saint-Pierre-des-Corps jusqu'à la gare, mais pour laquelle on a demandé que l'étude nous permette de dégager les grandes lignes de ce que cela pourrait donner de passer au sud des voies ferrées pour aller rejoindre les Atlantes et le sud du parc des expositions. Les études dont on devrait avoir des premiers résultats dans le début de l'année prochaine montrent que, en effet, on part du centre de Tours, on emprunterait le boulevard Hourteloup, on passerait sur l'avenue Jean Bonnin, on emprunterait le boulevard Jean Jaurès, et les réflexions qui sont en cours, c'est de savoir ensuite quel cheminement on prend. Doit-on prendre la rue de la Rabatterie? Doit-on prendre l'avenue de la République
pour
rejoindre la gare? Le tout est à l'étude parce qu'il faut que maintenant soit modélisé le nombre de voyageurs que pourrait capter, soit en prenant l'une des voies, soit en prenant l'autre voie. Mais en tous les cas, on viendrait rejoindre la gare à partir du cheminement que l'on a prévu rue Jules Guesde en continuité et qui traverse les secteurs de bureaux qui ont été installés dans le quartier gare et pour lesquels il y a les cheminements prévus pour y faire face.
Et des études vont être lancées en 2020 pour cette troisième.
Alors elles sont déjà commencées sur donc cette branche Tour Saint-Pierre-des-Corps et on devrait avoir une prochaine étape probablement fin janvier début février. Donc je pense que c'est intéressant parce que il y a une attente forte à une amélioration de la desserte des transports urbains sur l'est de l'agglomération.
L'enjeu, effectivement, c'est la desserte de la gare, mais plus largement de l'est agglo.
Tout à fait.
Alors, l'est agglo, c'est enfin l'est de Saint-Pierre-des-Corps, en tout cas. Je parle de le long de la rue de la Morinerie. On a là des espaces dont on sent que petit à petit, ils bougent, ils mutent, comme disent les urbanistes. En tout cas, ils bougent. Il y a eu des serres, il y a eu le studio Quai des Gammes, de répétition. Il y a un lieu privé qui est les ateliers d'artistes de la Morinerie. Vous parliez de l'école Joliot-Curie qui va devoir être. Ça bouge par là. Qu'est-ce qui. Et dans les. Il y a des projets encore dans les cartons, logement. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans la ligne de mire, là, sur cette partie-là, entre Saint-Pierre et Rivière-des-Dames, qui est un endroit un peu ingrat quand même, parce qu'il y avait Primagaz et le PPRT, le plan de prévention des risques technologiques. Vous pouvez nous dessiner un peu une esquisse de ce que ça pourrait être.
Alors, je crois qu'il faut être très clair, toute une partie de ce territoire de la ville est fortement impactée par le plan de prévention des risques d'inondation. Donc il est évident qu'on va continuer à avoir des espaces sur lesquels on n'a pas du tout de construction. Et tout le site de l'aire de la Morinerie actuellement qui est en espace sport, loisirs, dans lequel il y a un bois qui ne nous appartient pas et sur lequel on est en train d'essayer d'acquérir les parcelles mais où il y a beaucoup de propriétaires, tout cet espace-là sera toujours végétalisé, il n'est pas question d'y construire de l'habitat. Dans la partie sud de la rue de la Morinerie jusqu'à la rue des Épines Fortes, il y a un premier programme de logement qui va de la rue du 23 février jusqu'à la limite de la Ville aux Dames, qui est en cours d'élaboration, dans lequel une partie importante sera constituée de maisons individuelles sur pilotis pour intégrer cette question du risque d'inondation. Et de faire en sorte que si toutefois on avait une rupture de digue et que la crue venait à pénétrer dans la ville parce qu'on avait cette rupture de digue, l'eau puisse s'écouler sous les maisons sans les détruire et que les gens puissent rapidement venir. Je dis puisque pour que les habitants puissent revenir rapidement parce que si nous avons une menace de crue, on le saura par l'alerte qui nous sera donnée au Bec d'Allier, qui est la confluence entre l'Allier et la Loire. Et à ce moment-là, on aura 3 jours pour pouvoir évacuer la population, ce qui est quand même un élément important. Donc on va prendre, on est en train d'affiner ce projet avec les promoteurs, et serait porteur de la gestion de ces programmes, Touraine Logement, mais aussi la structure 3F, et donc le promoteur lui-même qui travaille aussi sur ce projet. Et puis, on va avoir à s'interroger aussi sur un autre site, qui est quand même le site de Primagaz, puisque quand les stockages vont partir, normalement le démantèlement devrait être achevé en 2023, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que ça devient. Et le qu'est-ce que ça devient, ben on va le réfléchir avec les habitants. Je disais tout à l'heure que j'avais rencontré l'association des riverains de Primagaz. Ils commencent aussi à avoir des idées. Ils ont fait évoluer les statuts de leur association pour ne pas être simplement sur le plan de prévention des risques technologiques, même si il reste encore à traiter les questions des pétroliers. Mais ils veulent aussi être sur le devenir de leur quartier. Mmh. Comment il peut évoluer, comment il peut se transformer. Mmh. Et on a là un point quand même difficile avec les quais de la Loire, et ça c'est important.
On imagine quand même un peu mal faire pousser des poireaux et des carottes sur le site de Primagaz, en tout cas en l'état actuel des choses, mais on a un premier maraîcher qui s'installe dans cette zone en maraîchage bio. On peut imaginer qu'il puisse y avoir d'autres maraîchers dans cette partie-là de la ville.
Alors, sur cette partie de la ville, je ne sais pas si on aura d'autres maraîchers, d'abord parce que nous, on a utilisé la presque totalité de l'espace que nous possédions pour le proposer à un maraîcher, mais il y a d'autres terrains dans Saint-Pierre-des-Corps D'accord. qui pourraient retrouver une activité maraîchage. Mais on se disait tout à l'heure, en discutant avec la responsable de notre service des espaces verts, que peut-être en façade des serres, il y aurait peut-être un petit clin d'œil à faire en lien avec le maraîcher qui s'installe juste derrière, pour faire prendre conscience que maraîchage et horticulture, ça peut peut-être bien vivre ensemble dans ce domaine-là. Mmh. Et puis, on a aussi tous les terrains de jardin qui sont quand même dans toute cette partie de la Morinerie et qu'on peut continuer à étendre en pied de digue.
Je vais vous dire au revoir. C'est avec une toute dernière question, réponse très brève, parce qu'on nous fait des signes là-bas que déjà, on n'a pas dépassé, mais pas loin. Voilà, c'est la fin de votre vie politique, c'est pas du tout la fin de vie tout court. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous concevez la suite de votre vie? Quelle forme politique elle va prendre? Je vous imagine mal rester à la maison, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est ma question. Comment vous imaginez la suite?
Je ne pense pas qu'en arrêtant mon mandat de maire, je vais arrêter de faire de la politique. Je pense que la politique, et je ne parle pas du politicien, hein, je parle bien de la politique au sens profond du terme, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse participer à la transformation de cette société qui est quand même en train de détruire les êtres humains. Ça me pèse lourdement et j'ai pas envie de ne plus participer à essayer de construire autre chose. Donc je continuerai à m'impliquer sur ces éléments-là. Et puis il y a un sujet dans lequel je me suis beaucoup impliquée ces dernières années, c'est les préventions des risques d'inondation. C'est tout ce qui tourne autour de l'urbanisation dans les zones qui sont soumises au risque d'inondation pour rendre les territoires plus résilients et faire que les habitants soient moins impactés par les inondations, parce qu'il y a, de toute façon, il y aura toujours des inondations. On ne peut pas s'en protéger totalement, donc il faut en prendre conscience. Donc je pense que je vais continuer à travailler sur ces domaines à l'échelon national. J'ai déjà été un peu approchée pour continuer dans ce domaine. Puis après, je pense qu'il y a plein d'autres choses aussi à faire. Mon mari est en retraite également. Je pense que à partir du moment où les contraintes qui sont celles de la vie municipale pour le maire, bien évidemment, sont levées, ça laisse du possible de façon beaucoup plus importante. Je pense que je n'oublierai pas ni la marche, ni le vélo pour continuer à faire en sorte d'être en forme.
Merci, au revoir.
Au revoir et puis bonne fête de fin d'année à tout le monde.
Mesdames, je vous remercie pour ce magnifique temps. Merci Marie-France Beaufils et merci Marie-Paul Meny. Tout de suite après une pause musicale, nous retrouverons le BTS CFA du 37, les apprentis en deuxième année. A tout de suite.